J'allume.
Bonsoir à tous et à toutes, ou à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux à cette soirée autour du père Marc Serres et de son superbe livre « Au péril de la nuit ». Alors il me revient d'introduire cette soirée, car j'ai eu la joie, le bonheur et ainsi l'honneur de publier, d'éditer cet ouvrage aux éditions du CERF. Je suis le père Escande, directeur éditorial des éditions du CERF. Voilà. Alors, pour commencer, je dirais que c'est une joie pour un éditeur que de permettre la lecture d'un grand livre. Mais il est une joie plus grande encore, et plus rare aussi pour un éditeur, celle d'être convaincu de la grandeur de cet ouvrage lorsqu'il lui prend l'envie de le relire, une fois paru. Et c'est vrai, cher père, que j'ai pris un plaisir profond à vous relire, à repartir avec vous à la rencontre de ces femmes, oserais-je les appeler mes sœurs, traverser avec elles cette autre nuit dont vous avez si parfaitement décrit les contours au tout début de votre ouvrage. Votre livre est un grand livre, et il fera date. J'ai parlé de rencontres à propos de ces femmes, et c'est vrai. Votre livre n'est pas une suite de portraits que l'on laisserait derrière soi pour passer à un suivant, comme dans ces grandes galeries, vous savez, froides et sombres, qui courent au cœur des grandes demeures. Non, c'est à des rencontres que vous nous invitez, de ces rencontres qui bouleversent l'existence et dont on ne ressort jamais indemne. Car ces femmes, ces sœurs, ne sont pas de ces saintes tristes, nichées sur nos autels, trop hauts pour être à hauteur de chair ou à hauteur de vie. Non, ces femmes que vous approchez avec une délicatesse qui m'a émue, sont des êtres de chair, je le disais, qui ont approché l'indicible, ont presque touché l'innommable et ont traversé l'épreuve. Pour cela, et par cela, elles me sont toutes proches. Elles sont comme devant moi, à quelques pas devant, là, en avant de moi et en moi plus avant. Toutes ont aimé et ont connu la blessure de cet amour. Une blessure qui peut faire mal et qui a fait mal, mais une blessure qui a fait rire. Alors, je vous invite tous et toutes à vous plonger dans la lecture de ce grand livre, je l'ai dit, parce que nous en sortons, et j'en suis convaincu, plein de lumière. Donc, un grand merci, cher père, pour cet ouvrage, mais je voudrais vous adresser un merci plus personnel, plus singulier aussi. Merci de m'avoir donné Marie-Noël. Je ne la connaissais pas avant vous, je la connaissais seulement de nom, mais elle est aujourd'hui un compagnon de route qui ne me quitte pas. Et la Providence a voulu qu'après la sortie de votre ouvrage, on m'offre de publier la superbe correspondance de Marie-Noël avec l'abbé Munier. Et faisant suite à cette correspondance, ce poème inédit que l'abbé Munier lui avait demandé de conserver par devant elle, pensant que le monde n'était pas prêt de l'entendre. Ce poème s'intitule « Ténèbres ». Et il donne la voix à un prêtre, je l'imagine sans âge, peut-être le mien, peut-être le vôtre, pris par le doute, enfermé dans la nuit du doute. Et je voudrais, pour terminer ce temps d'introduction, vous citer ici les derniers vers de ce poème sublime dans lequel le prêtre, l'homme ou la femme, vous ou moi, demandons à Dieu un signe, une parole, pour faire taire le doute et le monde qui le distille. Et je me tords les mains, et je voudrais qu'au moins, ô mon Dieu, par pitié, vous disiez quelque chose qui les force à se taire, ou que, pour votre cause, vous frappiez quelques coups dont je serais témoin. Mais vous me laissez seul contre eux, et ma prière qui, pour vous joindre en vain, avec la nuit combat, comme un oiseau qui dans sa cage se débat, partout se heurte au mur et n'entend rien derrière. Vous n'êtes nulle part, tout m'est vide, et pourtant, est-ce vous qui poussez hors de moi cet ardent, cet invincible cri qui m'ouvre les entrailles et déchire la nuit et franchit les murailles? Mon Christ, mon Dieu, pareil au voleur sur la croix, contre toute évidence, ô Fils de Dieu, je crois, contre toute espérance, ô Fils de Dieu, j'espère, je te suis où tu vas, mène-moi chez ton Père. Alors, pour nous aider à découvrir et aller plus avant et à rentrer ensemble dans cette autre nuit, le Père Marc Serre a voulu réunir autour de lui quelques amis. Je vous les présente succinctement. Ils vont parler à tour de rôle et puis le Père Marc Serre leur répondra en finale. D'abord, Madame Nathalie Sartou-Lajus, qui est rédactrice en chef adjointe de la célèbre revue Études et qui viendra témoigner de sa lecture, une lecture enthousiaste et passionnée, aussi passionnée que la mienne. Suivra une petite intervention du frère et du père Dominique-Marie Dauzet, qui est un grand historien de la spiritualité, auteur des éditions du Cerf aussi, professeur de théologie spirituelle au Centre de théologie de Caen. Et il est, comme vous pouvez le remarquer, un frère prémontré. Claude Langlois, enfin, autre grand auteur du Cerf, qui a été longtemps directeur d'études à l'École pratique des hautes études et qui est, on le connaît tous, un spécialiste internationalement connu pour sa recherche et ses travaux sur l'œuvre de Thérèse de Lisieux. Voilà, un beau programme en perspective. Je passe directement la parole à Madame Nathalie Sartou-Lajus.
Bonsoir. Donc quand François Marc Serre m'a proposé de participer à cette table ronde, j'ai été très honorée, mais je ne vous cache pas que j'ai hésité. N'étant ni théologienne, ni spécialiste de la spiritualité. Donc j'ai tergiversé, car j'ai beaucoup aimé le livre de François Marc Serre, tout en me demandant si cela était un argument suffisant. Mon métier, en fait, à la revue Études, m'oblige à de nombreuses et quotidiennes lectures. Mais je dois reconnaître qu'il est devenu rare qu'un livre m'accompagne ainsi. Durant tout un mois, j'ai fait durer le plaisir. Et même parmi d'autres lectures. Cette lecture donc m'a laissé une empreinte durable et profonde. Elle fut tout à la fois inspirante et éprouvante. J'essaierai de m'expliquer sur les deux. Et c'est ce témoignage-là de lectrice que je voudrais vous livrer ce soir avec son questionnement. Donc ce sera un témoignage, étant spécialiste de rien du tout, qui sera partiel et partial. Voilà. À vrai dire, au péril de la nuit est selon moi plus qu'un seul livre, car il raconte des itinéraires spirituels de femmes du siècle dernier, on doit déjà dire du siècle dernier, et comme il fait la part belle à leur voix en les citant abondamment, nous nous retrouvons à converser, je dirais presque de plein pied, par la manière dont il les fait parler. On se retrouve donc à converser avec Thérèse de Lisieux, Marie-Noël, Simone Veil, Edith Stein, Adrienne von Speer, Etienne Somme, Mère Teresa, Marie de la Trinité. Alors parmi elles, j'avais beaucoup lu et beaucoup aimé Simone Veil. Dans ma formation philosophique, Simone Veil est sûrement celle qui a le plus compté pour moi. D'abord parce qu'elle m'avait permis de réconcilier l'admiration que j'ai pour la pensée grecque et puis l'admiration que m'inspirait aussi le christianisme. Avec elle, j'ai pu, tout au long de mon parcours philosophique, j'ai pu articuler sans les confondre ce qui relève de la pensée et ce qui relève de la foi. Et je crois beaucoup à la fécondité de cette confrontation, parmi les ouvrages qui ont compté « L'attente de Dieu »,« La pesanteur et la grâce ». J'avais lu également de près Edith Stein, notamment son essai « De la personne ». C'était une occasion de prolonger, de revisiter, d'approfondir le personnalisme qui m'avait mis sur la voie de la philosophie quand j'avais 17 ans. Jusqu'à peu de temps, on va dire jusqu'à mon entrée aux études, donc ça fait quand même déjà une dizaine d'années, j'ignorais les écrits les plus spirituels, ceux de Thérèse de Lisieux, d'Adrienne von Speer, de Mère Teresa et de Marie de la Trinité, ainsi que l'œuvre poétique de Marie Noël, que j'ai découvert en partie grâce à Jeanne-Marie Baude. Nous avions publié un article d'elle dans la revue Études sur Marie Noël à partir de la publication de ses notes intimes. Et là, ça avait été un choc. Mais celle dont je m'étais sentie la plus proche était et demeure, je crois, Est-il soum. Une vie bouleversée, c'est un livre qui m'a accompagnée, qui a accompagné, je dirais, la formation de la jeune fille, de la jeune femme, de la femme, après que je suis devenue. C'est pour vous dire un petit peu d'où je parle. À chaque chapitre, je dirais un portrait malgré tout, même si la notion de portrait est discutée par l'éditeur, mais en même temps c'est cette série de portraits que nous avons en couverture. Donc je dirais un portrait, une voix et en effet une rencontre. Il est difficile de visiter de tels sommets spirituels sans éprouver la nécessité de reprendre son souffle. Tant ces femmes vont loin finalement dans le don d'elles-mêmes. Et j'ai prouvé ça au cours de la lecture. C'est pour ça que c'est un livre qui m'a accompagnée durant tout un mois. Ce n'est pas un livre que j'ai lu d'une seule traite, c'est un livre que j'ai lu petit à petit. Après chaque portrait, je faisais une pause. Et une pause remarquable par le désir irrépressible que j'éprouvais alors à jouer avec mon chaton. Alors cela pourrait vous paraître un détail anecdotique s'il ne s'était répété tout au long de la lecture de ce livre. Comme si le pendant à la lecture de ces expériences mystiques marquées par une exposition périlleuse de soi ne pouvait être que l'exploration de l'insouciance avec le jeu de l'animal. D'un côté, j'étais saisie par l'effroi d'être reliée à plus grand que soi, et de l'autre, j'éprouvais la nécessité, le besoin, le plaisir à jouer avec ce lointain semblable qu'est l'animal. Et décidément, me disais-je, notre humanité ne se contient pas en elle-même. Toujours, elle s'éprouve en se débordant vers d'autres formes de vie, à l'épreuve desquelles notre identité d'être humain, se fait, se défait, se recompose. Avec chacun de ces itinéraires spirituels, j'ai eu le sentiment d'entrer dans l'intelligence des mystères de la foi et aussi dans leur vertige. Une seule vocation m'a semblé requérir ces femmes, l'amour, l'ardent amour, sans calcul ni comparaison. J'éprouvais à cet égard un attrait mêlé de réticence à l'endroit de ces femmes que l'on dit mystiques. C'est François Marxer qui a intitulé comme ça l'article qu'il a fait dans les études. Et je redoutais, je vous l'avoue, je redoutais cette folie d'un amour qui ne recule devant aucun sacrifice, qui veut tout donner jusqu'à mourir à soi-même. N'y a-t-il pas d'autre voie, me disais-je dans une espèce de lutte intérieure partagée entre mon attrait et puis cette réticence, n'y a-t-il pas d'autre voie pour accéder au divin que le péril de cette nuit? N'y a-t-il pas d'autre voie pour aimer que cette épreuve de l'altérité comme épreuve de la mort. S'abandonner, me disais-je. Oui, s'il faut accepter de perdre la maîtrise et le sentiment de sa suffisance. Oui encore, s'il s'agit de consentir à l'obscur et à l'incertain, pour voir et sentir autrement, de façon plus intense. Mais jusqu'où faut-il aller dans l'abandon de soi-même? Faut-il aller jusqu'à l'effondrement de soi? Et là, j'étais hantée par leurs prières. Je peux vous citer, que je reprends mais très brièvement, « Cessez d'être par amour, mon Dieu, accorde-moi de devenir rien. » Faut-il consentir à une telle décréation, pour reprendre un concept élaboré par Simone Veil? Faut-il consentir à une telle réduction de soi au néant? Et je m'interrogeais. Pourquoi les femmes, particulièrement les femmes, ont-elles cette propension à s'abandonner dans l'amour, en payant souvent le prix fort de la folie ou de la mort? Pourquoi mettent-elles moins de limites que les hommes dans l'offrande d'elles-mêmes? Est-ce pour parler le jargon de la psychanalyse, parce qu'elles n'ont pas le même rapport que les hommes à l'angoisse de castration? Auraient-elles moins à perdre que les hommes? Je ne rentrerai pas dans ce débat-là, faire une autopsie psychanalytique, je n'en ai pas les compétences. Et à vrai dire, il me semble que ce n'est pas là l'intérêt. Dans le cantique des cantiques dont elle s'inspire, et que, sur lequel vous revenez, chacune, finalement, on sent que le cantique des cantiques, c'est un livre fort. Donc ce livre de la Bible qui célèbre l'amour érotique des amants comme l'amour spirituel de l'homme et de Dieu, il est dit que l'amour est fort comme la mort. Formule donc souvent invoquée. L'amour donc n'est pas plus fort, mais il n'est pas non plus moins fort que la mort. Il suppose la traversée de la mort, la traversée de la nuit sous toutes les formes que François Marxer analyse avec tant de finesse. Le conflit entre les pulsions de vie et les pulsions de mort, entre Eros et Thanatos, ne manque pas de ressurgir chaque fois qu'on aime, chaque fois qu'on tombe amoureux. Il n'est jamais aussi élevé que quand on l'aime, que quand on aime. Mais la fin de l'amour, est-ce pour autant de se perdre au sens de s'anéantir, et au risque même d'être sidéré par ce désastre? Je perçois dans cette quête d'un pur ou d'un fol amour, en tout cas je percevais, une forme d'idéalisation et d'aliénation dont je redoutais qu'elle soit typiquement cette part féminine qui fait tant peur aux hommes, juste titre, mais tout en les arrangeant bien, puisqu'elle voue les femmes à une forme de servitude volontaire ou de sacrifice d'elles-mêmes. On retrouve dans la nuit de l'athéisme, ou dans le concept de l'athéisme purificateur de Simone Veil, cette haute idée de la pureté, comme chez les adeptes du pur amour. Aimer Dieu inconditionnellement, l'aimer pour lui-même et non pour l'intérêt ou la consolation que je pourrais en retirer, c'est l'aimer, nous dit Simone Veil, c'est l'aimer même s'il n'existe pas. Et ceci jusqu'à l'anéantissement de soi. Je perçois là une intransigeance inouïe, atteignant un point d'orgue que j'ai découvert, quasi insoutenable chez Marie de la Trinité, dans sa traversée de l'angoisse d'être emmurée vivante. À cet égard, j'ai pensé, bien sûr, au destin d'Antigone. Antigone, elle aussi, incarne cette intransigeance du don de soi, au nom d'un idéal qui la sépare des autres jusqu'à la mort. Et la mort qui lui est réservée, l'emmurement vivante dans un lieu désert, est emblématique là d'une solitude absolue. Elle souffre de cette solitude, mais qu'elle finit par assumer, voire par revendiquer, comme la marque d'une élection et d'un destin d'exception. Je dois reconnaître que j'ai du mal à me reconnaître dans cette tradition que par ailleurs j'admire. Car la recherche d'une pureté dont la seule garantie serait la mort, me remplit de perplexité. Aller jusqu'au bout de ce qu'aimer veut dire, implique-t-il de mourir à soi-même? La mort est-elle le seul absolu de l'amour? Nous savons depuis Nietzsche et son analyse de l'idéal ascétique combien le détachement de soi peut être la manifestation d'un terrible orgueil. La volonté de néant, nous dit Nietzsche, n'est pas un néant de volonté. C'est la troisième dissertation de la généalogie de la morale sur l'idéal ascétique, sur sa critique de l'idéal ascétique. Et ils sont ainsi les formes redoutables de la volonté de puissance et de jouissance qui peuvent conduire à l'anéantissement de soi. Le philosophe Gustave Thibon écrit ainsi à propos de Simone Veil, dont il était par ailleurs un grand ami, « Elle était détachée de tout, sauf de son détachement. » Ce qui rejoint ce que vous dites également à propos de Claudel, d'une certaine manière. « Nuit de l'être, je vous cite, nuit de l'être vulnérable qui était prêt à se séparer de tout, mais pas de lui-même. » L'idée d'un don inconditionnel me laisse surtout dubitative, car je ne crois pas que l'amour soit uniquement fait de don de soi. Il est aussi demande d'amour et soutien mutuel. L'être aimé, fût-il divin, ne comble pas nos manques, mais il rend supportable de vivre au plus près de cette béance originelle sans s'y enliser dans le vertige de son impuissance et de son anéantissement, ou sans s'en tenir trop de rigueur dans le vertige de la haine et de la culpabilité. En ce sens-là déjà, il me semble que l'amour peut sauver de l'accablement du désespoir. Et à cet égard, je suis plus sensible à la nuit de la miséricorde d'Étienne Soum, qui va jusqu'à retourner le sens du salut avec cette prière qui reconnaît la faiblesse de Dieu et entreprend de lui venir en aide. « Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. » Nous tentons vainement d'échapper au manque en convoitant toujours autre chose ou quelqu'un d'autre, et quitte à faire plutôt Dieu que des hommes, parce qu'avec les autres, ce n'est jamais ça ou jamais assez. Ne pas chercher à combler le vide, mais lui faire une place au creux de notre intimité, n'est-ce pas ce qui rend possible d'aller et venir librement dans une relation aimante? N'est-ce pas aussi ce qui rend possible la création et le jeu, y compris avec un animal, qui peut être salvateur pour les hommes dans de nombreuses circonstances? Enfin, que pouvaient donc me dire ces mystiques sur l'émancipation des femmes? La conquête neuve de leur liberté de sujet, qui me semblait être le grand événement du XXe siècle. À l'aube de l'émancipation féminine, la romancière Virginia Woolf évoque l'importance pour les femmes de posséder une chambre à soi, afin d'exprimer une liberté qui jusque-là leur était interdite. Quel rapport, me suis-je demandé, entre cette revendication d'une chambre à soi et celle de la chambre haute d'Étienne Soum? Cette demeure où l'on fait entrer en soi un peu de Dieu. Il me semble qu'il n'y a pas forcément de contradiction. La chambre à soi ne désigne pas tant un chez-soi qui préserverait le fort intérieur de toute intrusion extérieure. Elle abrite aussi le secret d'une relation à soi qui peut passer par la médiation des autres et de Dieu, définie par saint Augustin comme le plus intime de l'intime. C'est donc cette source au-dedans de soi qui fait que l'amour est inépuisable. Alors il y a quelque chose dans l'abandon de soi des mystiques qui peut heurter la sensibilité des jeunes femmes des femmes contemporaines. La peur de perdre la qualité et la liberté de sujet qu'elles viennent à peine de conquérir. Je suis cependant très sensible à cette notion d'action, je vous cite, d'action non agissante ou de passivité active que ces femmes mystiques développent. Il me semble que c'est là quelque chose de vraiment très fécond pour aujourd'hui, parce que cette notion-là permet de dépasser l'opposition traditionnelle entre l'amour-passion et l'amour-action. Cette notion d'action non agissante ou de passivité active ne signifie pas du tout un renoncement à l'exercice de sa liberté de sujet. Mais je crois qu'elle permet d'aller plus loin en amour que le simple volontarisme. Cette passivité n'est jamais la passivité de l'objet. Elle recèle des ressources pour l'action. Elle tient sûrement aussi à un plus juste équilibre qu'il nous faudrait apprendre à redécouvrir entre les forces de possession et celles de dépossession, entre la maîtrise et l'abandon de soi. Toute la difficulté dans l'amour n'est pas simplement de donner, mais aussi dans cette capacité de recevoir et d'être disponible pour la rencontre qui va nous bouleverser. Il me semble qu'après avoir expérimenté certaines impasses d'une conception volontariste de l'amour, qu'il est peut-être temps de retrouver cette intelligence d'une action non agissante ou d'une passivité active. Vous parlez heureusement dans votre livre, j'ai beaucoup aimé cette expression qui revient souvent et que j'aimerais vous voir développer, vous entendre encore développer, d'un kairos spirituel. C'est quelque chose que je n'avais jamais rencontré par ailleurs, cette idée d'un kairos spirituel. Et je crois en effet que c'est un moment favorable aujourd'hui. Un moment favorable pour la spiritualité et un moment favorable pour les femmes. De faire entendre une autre acception de l'amour et de la liberté à nos contemporains. Comme chemin de dépouillement et d'attention à ce qui vient. Comme offrande de sa présence. Et là je cite Est-il sous ? Les gens ne veulent pas l'admettre. Un moment vient où l'on ne peut plus agir. Il faut se contenter d'être et d'accepter. Et cette acceptation, je la cultive depuis bien longtemps, mais on peut le faire que pour soi, jamais pour les autres. En vous lisant, je dirais que je n'ai pas rencontré les athlètes de Dieu que je pouvais imaginer, mais bien des femmes bien incarnée, impressionnante de lucidité et de courage, taraudée par l'inquiétude spirituelle devant l'horreur des vies détruites, des vies qui ne comptent pas, des vies anéanties. J'ai rencontré, grâce à vous, des femmes qui ont connu le libre amour, peut-être parce qu'elles ont consenti à entrer dans la passion du Christ, au risque, il est vrai, de se perdre elles-mêmes. Il me semble que sans être hagiographique, votre livre fait revivre les combats spirituels de ces femmes ardentes, religieuses, écrivains, philosophes, poètes, qui ont su penser et écrire contre les conformismes de leur époque. Loin de nos désirs de maîtrise et d'appropriation, loin de nos satisfactions faciles. Et pour tout cela, il me semble qu'aujourd'hui, ces femmes demeurent profondément inspirantes. En vous lisant, j'ai songé en tout cas à Rimbaud, disant que le combat spirituel est plus brutal que la bataille d'hommes. Simplement, je dirais que je préfère très certainement le clair-obscur aux ténèbres de la nuit. En fait, j'aime ce qu'il y a de jour dans la nuit. J'aime ce qu'il y a de combat dans la paix, ce qu'il y a de masculin dans le féminin, et de féminin dans le masculin. J'aime l'entrelacement des différences. Enfin, je crois aussi qu'il n'est pas bon que l'humain, homme ou femme, soit seul dans ce combat spirituel. Je crois qu'il n'est pas bon que l'humain soit seul devant Dieu. Je crois qu'il a besoin d'un compagnonnage, d'un tiers, homme ou femme, et surtout d'une communauté. Comme épreuve d'une altérité qui toujours échappe, déplace, remet en question, éprouve, mais aussi comme présence qui apaise et console en apprenant à vivre avec ses manques malgré tout. Et j'insiste sur cette expression qui est la vôtre et qui m'a beaucoup plu, malgré tout. Je crois que cette expression revient vraiment souvent dans votre livre et je dois reconnaître que cela me va, cela me convient. Ma foi et mon espérance tiennent aussi à ces deux petits mots. Donc merci beaucoup, François Marx.
Merci beaucoup. Cher Père, cher François, chers amis, bon, nous sommes réunis pour fêter un livre, et un livre important. Vous l'avez compris, et merci madame de ce que vous avez dit. Les gens qui n'ont jamais fait de livre, et qui n'ont jamais porté une longue écriture à son terme, ne savent pas et ne peuvent pas savoir combien il faut à la fois fêter un livre terminé et fêter son auteur. Ça n'est pas rien d'écrire un livre de 637 pages sur un sujet grave, peu abordé par les spécialistes de théologie spirituelle ou les historiens de la spiritualité. Et ça n'est pas rien d'avoir le courage de s'asseoir enfin à sa table un jour pour rédiger pendant des centaines d'heures un ouvrage qu'on porte parfois depuis très longtemps en soi. Et ça n'est pas rien de ciseler des milliers de phrases, comme l'a fait François Marxer avec son immense culture que nous lui connaissons, et avec ce style si personnel, si chatoyant, parfois flamboyant. Et alors s'agissant des abîmes de la nuit où il nous entraîne, une écriture, c'est une image qui m'est venue en le lisant, une écriture presque phosphorescente, à l'image des poissons lumineux qui hantent les grands fonds marins. Voilà, il faut louer et remercier François Marxer. Voilà. Avant de dire quelques mots tout simples, peut-être même sans entrer dans l'intérieur, comme vous l'avez fait, madame, du livre, mais avant de dire quelques mots tout simples, qu'on me permette une petite confidence personnelle, d'ailleurs innocente. Il y a 10 ans, donc je crois, j'ai publié aux mêmes éditions du CERF un petit livre intitulé « La mystique bien tempérée ». Et c'est un livre qui, à travers une galerie de portraits de femmes mystiques contemporaines, traitait de différents problèmes, et spécialement de deux. Celui de l'écriture de l'expérience spirituelle, pourquoi est-ce qu'on essaye de mettre des mots sur l'expérience de l'intime, et puis le problème aussi de la présence masculine. Alors, tout vrai, soit ce que vous avez dit à l'instant sur la nécessité du compagnonnage d'un compagnon, je me suis heurté dans cette galerie de portraits féminins à la présence, au problème de la présence masculine, celle du mari, ou du confesseur, du directeur de conscience, présence plus ou moins discrète, parfois plutôt moins que plus, interférant dans la relation entre la femme et Dieu. Bon. En tout cas, j'avais eu beaucoup de plaisir à faire ce livre, et je pensais qu'il faudrait un jour faire un tome 2. J'avais parlé de femmes merveilleuses, mais j'aurais bien aimé parler de beaucoup d'autres encore, certaines bien connues, comme Marie-Thérèse Noblet, cette femme de tête qui avait fondé une congrégation de petites sœurs papoues en Papouasie, mais qui avait besoin d'être exorcisée tous les jours, à moins qu'elle n'ait eu besoin surtout de l'exorciste, ce qui n'est pas la même chose, évidemment. Bon. Ou bien Teresa de Los Andes, cette petite Thérèse de Lisieux du Chili, morte à 20 ans, tellement ingénue qu'elle n'a jamais su qu'elle était une grande mystique. Bon, j'aurais aussi aimé parler d'autres figures méconnues, trop méconnues, comme de merveilleuses poétesses. Pour moi, la mystique et poésie sont si liées, intimement liées. Je ne sais pas, Emily Dickinson, par exemple, Christina Campo, d'autres. Ou parler de Lillian Simburn, cette indianiste française passionnant dans sa correspondance avec son gourou. Et puis d'autres totalement inconnus, comme la sœur Sainte-Cécile de Blon, on trouve toujours des gens improbables, une incroyable mystique normande, aveugle, enfermée toute sa vie dans une cellule d'infirmerie, emmurée. Bref, disons que dans ma tête, à mes heures perdues, je refaisais la liste des élus sans jamais trouver le temps de faire le livre, lequel livre aurait été en fait la pierre d'attente pour un vrai livre, dans lequel je voudrais faire un jour une rhétorique, ou plutôt une grammaire, de l'écriture mystique. Bon, en tout cas, lorsque le livre de François Marxer est arrivé sur ma table et entre mes mains, quand j'ai vu ces petites icônes féminines alignées sur la couverture, je me suis dit, mais qu'il est bon ce François, il vient de me faire le tome 2. J'étais évidemment dans l'erreur, parce qu'on ne fait pas les livres des autres. Bon, on fait ses propres livres. Et puis, à peine ai-je ouvert le livre de François, que j'ai mieux compris encore mon erreur, parce que son livre, intitulé « Au péril de la nuit, femme mystique du XXe siècle », même si en rigueur de terme, Thérèse est du XIXe siècle, enfin. Ce livre n'est pas une série de portraits de femmes. Je mets des guillemets à « portrait de femme » en pensant à ce merveilleux livre de Pietro Citati, « Ritratti di donne », « Portrait de femme », bon, c'est un livre que nous aimons tous, mais son livre, le livre de François, n'est pas un livre sur les femmes, et ce n'est pas non plus un livre sur la mystique. Du reste, à part Simone Veil et Marie de la Trinité, peut-être, chez qui les expériences mystiques de saisie, d'arrobiamento, sont patentes, je ne sais pas trop si on peut parler de mystique pour les autres qu'il a retenus dans son livre. Bien sûr, il s'agit dans le livre de François Marxer de trajectoires féminines, spirituelles du XXe siècle, et sans doute de trajectoires, si je peux me permettre, souvent déjà largement étudiées. Et alors la question serait, dans son propre tome 2, est-ce que nous aurons des archives inédites et des sentiers féminins encore inexplorés, je l'espère beaucoup. Cela étant dit, je vais dire après sur quoi est le livre, puisqu'il n'est pas sur les femmes ni sur la mystique, mais j'y viens. Cela étant dit, que nous soyons toujours à nous occuper des mêmes femmes exceptionnelles de ce XXe siècle n'est pas vraiment un hasard. Moi, il me semble de plus en plus, qu'en travaillant au fil du travail, qu'il y a dans l'histoire extrêmement riche du XXe siècle, de la spiritualité féminine du XXe siècle, disons un moment central entre les années 25 et 45, bon, et ce moment 25-45 qui voit une constellation extraordinaire de personnalités incroyables, je cite en vrac Marthe Robin, avec ce tournant capital dans sa vie de 1928, quelques mois avant les grandes grâces d'août 29 de votre Marie de la Trinité, Adrienne von Speer, bien sûr, avec le début des grâces mystiques en 40, la riche année 41 de votre Marie de la Trinité, Julienne du Rosaire, la dominicaine québécoise, avec cette conversion de 1942 passionnante, quand elle découvre sa vocation eucharistique. Bon, on pourrait continuer longtemps. Et puis, bon, Catherine Pozzi, Simone Veil, bien sûr, Dorothy Day, Simone Veil aussi. Simone Veil, alors, ça me fait dire que la mise, disons, en perspective de toutes ces destinées serait extrêmement intéressante. Vous avez peut-être relevé au passage, je dis 40, Adrienne, 41, Marie de la Trinité, 42, Julienne du Rosaire, on pourrait ajouter 43 pour l'événement sacrificiel, disons comme ça, de Simone Veil. Ce sont des années mystiques qui sont levées dans la plus épouvantable des guerres du XXe siècle. Alors voilà, il y aurait à réfléchir à la signification de ce fait curieux. Pendant que les hommes sont à la guerre, les femmes sont fascinées par ce mystère de l'amour divin. Bon. De toute façon, le livre de François Marxer n'est pas un livre sur les femmes, il est un livre sur la nuit. C'est le premier livre riche, consistant et intéressant, et même dérangeant, que j'ai vu de ma vie sur ce sujet. C'est l'expérience terrible de la nuit avec ses facettes extrêmement variées qui fascinent Marxer. Alors, en témoigne d'ailleurs le peu de soucis, c'est pour ça que c'est un peu déroutant parfois, que l'auteur a de présenter ses personnages. Il n'y a pas moins biographe que François Marxer, au sens classique du terme. Alors, soit qu'il crédite évidemment ses lecteurs d'une connaissance approfondie des personnages dont il parle, connaissance qui n'est parfois pas du luxe pour le suivre, soit qu'il ait choisi radicalement une autre voie, une autre porte d'entrée. Ce qui est bien légitime, après tout. Mais alors en témoigne surtout, évidemment, l'abondance et l'extrême beauté des développements sur ce thème de la nuit, quitte, quand les chapitres ne suffisent pas, à inventer des intermédies, postludes, codas et autres artifices rédactionnels pour parler encore et encore de la nuit. Et je dois dire que j'ai admiré et noté bien souvent en lisant comment l'écriture même, ça c'est très intéressant dans le livre, comment l'écriture même de François Marxer, je dirais, trébuche dans cette nuit, et comment le langage, à coup d'oxymore par exemple, aide à comprendre la folie de cette nuit. Et du début à la fin, la nuit, page 13, la nuit, une noirceur d'éblouissement. Voilà une oxymore. Et voilà, il faut oser écrire ça. Page 583, à l'autre bout du livre, mais il y en a des centaines. Le rayon de ténèbres, plus lumineux que toute lumière. Le rayon de ténèbres. Voilà. Alors c'est un paradoxe. Je crois qu'il y a une grande jouissance de François Marxer d'utiliser ces formes littéraires, mais elles sont destinées à faire entrer par le langage même dans ce qu'il raconte. Et c'est magnifique. Destiné aussi à faire entendre que la nuit n'est pas une désolante épiphanie du mal, c'est une formule à lui, qu'elle n'est pas le négativisme triste de notre siècle de fer, non, ça n'est pas ça la nuit, ça n'est pas non plus la foi vive, dit-il, de nos contemporains dans le néant, non, ça n'est pas ça la nuit, ni non plus l'obscurité cérébrale des chemins qui ne mènent nulle part. Vous voyez à qui je fais allusion. La nuit n'est pas non plus, peut-être qu'elle n'est pas non plus ce jeu intellectuel au fond, ou même spirituel, de construction entre lumière et ténèbres, comme le spécule la bonne Adrienne von Speer, qui laisse François Marxer un peu perplexe, si j'ai bien lu, et il n'est pas le seul. Une des révélations pour moi du livre de François, c'est son insistance sur le fait que la nuit ne se choisit pas. Elle est une fulgurance, une entrée en force dans une destinée humaine, dans une vie. Cette nuit, dans l'infini, c'est, dit-il, un éclair brutal. Et c'est même la marque essentielle de son origine divine. The infinite, a sudden guest, écrit la chère Emily Dickinson. L'infini, un hôte soudain. Sudden guest. Et cette nuit qui s'invite sans prévenir, surprend, évidemment. Désarçonne. Après, il faudra vivre avec, mais elle surprend. Les ténèbres qui sautent sur vous comme une panthère. Ça pourrait être du Marxer, mais c'est du Claudel. En tout cas, la force de François Marxer, c'est de scruter précisément cette apparition de la nuit. Ça, c'est un travail très intéressant dans son livre. Il n'est pas biographe, mais il y a quand même de la chronologie. Il y a des destinées, et elle aura à l'intérieur le surgissement de la nuit dans ses trajectoires. C'est très intéressant. Étant entendu que la lumière pourrait tout aussi bien apparaître que la nuit. L'une, au fond, n'est que le revers de l'autre. Alors, bon. La nuit, dit François Marxer, est peut-être l'autre nom de, je cite, cette contradiction cruciale qui travaille l'homme lui-même dans l'union charnelle de son esprit, de son âme et de son corps. J'ai médité longuement cette belle formule, très intéressante formule. Là gît sans doute la croix pour l'homme, et le livre en présente donc des cas extraordinaires. Alors par exemple, je ne vais pas rentrer dans le détail du livre, je vais dire deux choses. Par exemple, dans la description, particulièrement réussie, je dois dire, que vous faites de ce parcours d'anéantissement de Marie de la Trinité qui vous fait peur, mais de Marie de la Trinité de Mulatier, c'est intellectuel, forcené. À propension, silence, carmélitaine, mais égaré chez les dominicaines des campagnes. Et alors, vous montrez très bien l'apparition progressive des zones d'ombre, un peu comme les nuages qui précèdent l'orage là dans le ciel, l'atmosphère qui se charge d'électricité. Et on sent que Marie de la Trinité, qui est acculée à vivre cette vie religieuse active dont elle ne veut pas, qu'elle ne peut pas vivre, mais dans laquelle, par défiance d'elle-même, elle a accepté sacrificiellement de vivre, c'est-à-dire qu'elle a accepté de s'emmurer dans cette vie. Voilà. Et donc elle va tout à coup basculer dans la nuit, ou dans la mort, ou dans la maladie. Le corps parle beaucoup chez elle, chez toutes d'ailleurs, mais chez elle beaucoup.
mort physique, mort psychique, mort spirituelle, une mort splendide, évidemment. La maladie de Marie de la Trinité est splendide. Et sa psychanalyse avec Lacan aussi, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Je ne crois pas que vous ayez cité cette lettre de l'hiver 44 qui montre dans quel état névrotique elle se trouve. Je lis deux lignes. « Il me semble, quelquefois, que je suis enterrée vivante et que je concours moi-même à cet enterrement, comme une pierre au fond de l'eau. Du reste, il y a 2 ans et demi, en juin, à l'octave de la Sainte Trinité, une fois reçu la miséricorde du Seigneur, j'éprouvais que j'avais reçu un coup de mort et que j'allais devenir inutilisable. » Elle parle d'elle comme un objet qu'on jette, un objet englouti, un déchet. Une épreuve terrible de la nuit parce que Dieu n'y est plus nommable, il est plus priable. On ne peut plus lui dire « Dieu notre Père », on ne peut rien dire d'ailleurs. « Il y a entre elles, dit-il, un mur et moi. » Encore le mur. Alors je ne sais pas si vous avez raison de rapprocher, j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais je ne sais pas si vous avez raison de rapprocher cette expérience de l'athéisme purificateur de Simone Veil dans les Cahiers de Londres. Mais en tout cas, il y a une épreuve du feu qui incendie cette nuit de folie, de désespérance, de terreur. Voilà. Alors, je voudrais m'arrêter, mais je dis quand même quelques mots de... On est gêné de parler d'une pareille somme, mais c'est irrespectueux de dire quelques mots de ce livre. Mais bon, peut-être que sur votre chapitre concernant Simone Veil, qui m'a passionné, et je vous remercie beaucoup de ces pages sur Simone, précisément... votre approche très, très juste de... J'ai perdu mes pages. De ce qu'on a appelé tout de suite la décréation veillienne, qui est une chose qui est souvent lue, une notion qui est souvent lue de travers, qui est difficile à comprendre. Simone Veil n'est pas un auteur facile, mais vous la voyez comme un visage de la nuit que vous scrutez, et c'est le moment où l'ego se vide de lui-même. C'est une expérience de kénose. Et d'ailleurs, Simone développe cette notion de décréation en 41, alors qu'elle commence à étudier de près saint Paul et surtout l'Hymne aux Philippiens. Donc, et elle écrit ceci, je vous la cite, « Nul ne va à Dieu créateur sans passer par Dieu vide de sa divinité. Nul ne va à Dieu créateur sans passer par Dieu vide de sa divinité. Il faut donc du vide en nous pour faire apparaître l'icône divine. C'est un passage de l'obscurité du contentement de soi, qui est aussi une forme de nuit, une nuit sotte, mais une nuit, de l'obscurité du contentement de soi à l'aveuglement quand vient la lumière. Une lumière qui vous plonge dans la nuit. Dans les Cahiers de New York, elle rapporte ses expériences de nuit, jour, obscurité, lumière. Elle rapporte ses expériences à la vérité universelle sur l'homme en quête du divin. Et là, elle rejoint évidemment la philosophie grecque. Elle a lu ça déjà dans la République, bien sûr. Elle a lu ça dans le Timée. Oui. Et alors justement, au bout de la kénose, il y a la mort. Et alors ça m'a beaucoup intéressé aussi. Dans votre livre, il y a la mort du Fils de Dieu. Et surtout... une mort d'esclave. Et elle dit que la crucifixion, elle a beaucoup médité là-dessus, dans l'Antiquité, est le terme ultime du malheur de l'esclavage. Et elle, qui a acquis en usine, alors dans sa chair, expérimentalement, la conscience de la condition d'esclave de beaucoup d'hommes, elle entre progressivement ainsi dans cette nuit kénotique qui la conduit avec une logique assez dramatique, jusqu'à son attitude d'inédit, d'anorexie poussée à son terme, au sanatorium d'Ashford en 1943. Mais alors, dans toutes les nuits qui font ce livre, je sais s'il y en a, de nature variée, toute passionnante, il manque une nuit. Oui, dans les pages sur Simone Veil, qui est une nuit à la fois métaphorique et réelle, une nuit, la fameuse nuit de Carcassonne, qui est pour moi un très haut moment dans l'histoire spirituelle et intellectuelle du XXe siècle français. On est fin mars 42, pour Simone c'est entre Marseille et New York, c'est une période très difficile. Simone, qui est en en chemin vers le baptême, en chemin vers la foi, déjà dans la foi chrétienne, sans avoir franchi le pas. Bon. Elle va à Carcassonne sur l'indication d'Hélène Honorat, son amie, pour parler avec le chanoine Vidal, qui est un théologien local, pour parler avec lui de la théologie chrétienne. Mais la première nuit de son séjour à Carcassonne, sans doute vers 11h et minuit, pour autant qu'on le sache, elle va visiter Joé Bousquet. Et ils parlent ensemble jusqu'à 4h du matin. Joé Bousquet, c'est un écrivain, un merveilleux poète, qui avait été atteint d'une balle dans la colonne vertébrale en 1918. Il avait 21 ans. Et il a passé les 30 années suivantes de sa vie enfermé dans sa chambre, paralysé sur son lit. Une chambre d'ailleurs de nuit, au volet toujours clos. Il a écrit un recueil de poèmes qui dit, en 1932, « Il ne fait pas assez noir », c'est le titre du recueil, « Il ne fait pas assez noir ». Et alors, sa chambre que fréquentaient Aragon, Éluard, Dali, était un véritable salon littéraire, et en tout cas il assumait avec beaucoup de courage, et pas mal d'opium aussi, sa destinée. Il disait ceci, « Ma blessure existait avant moi, je suis né pour l'incarner. » Alors, cette conversation nocturne, unique, cette nuit de Carcassonne entre Bousquet et Simone, on le sait par les fameuses lettres que vous citez, d'ailleurs, qu'elle lui adresse ensuite, tourne autour d'un sujet absolument fascinant. Il faut savoir si une nouvelle naissance, issue par exemple de la souffrance, est possible. C'est proprement l'entretien de nuit entre Jésus et Nicodème qui porte sur le même sujet. Et Jean dit de Nicodème, il vint de nuit. Alors, après cette nuit sublime de Carcassonne qui avait pour Simone une valeur infinie de test auprès d'un grand témoin de la nuit corporelle qu'était Bousquet. Et c'est un sujet qui la rejoint intimement. Elle l'aborde pas en intellectuel, ça la rejoint intimement parce que elle pense à sa propre souffrance qu'elle expérimente en 43. Elle expérimente depuis 13 années continue une migraine incessante au travers de laquelle, pendant laquelle elle écrit toute son œuvre incroyable. Donc, enfin, je passe sur tout ça, mais elle écrit à Bousquet, elle ose écrire après cette nuit passée à parler ensemble. Vous êtes infiniment privilégié car vous avez la guerre logée dans votre corps qui, depuis des années, attend que vous soyez mûr pour la connaître. Et elle continue, pour penser le malheur, il faut le porter dans sa chair, enfoncé très avant, comme un clou. Et le porter longtemps, afin que la pensée ait le temps de devenir assez forte pour le regarder. Voilà. Alors, vous commentez ensuite, de façon très intéressante, le prologue de la connaissance surnaturelle. Mais alors, il m'a manqué cette nuit de Carcassonne. Bon, c'était juste pour vous taquiner. On pourrait parler longuement de chacun de vos chapitres, commenter, controverser. Je vais m'arrêter. Ces quelques mots, cher François, étaient surtout pour vous dire que vous nous avez au fond sorti, j'espère définitivement, de la définition beaucoup trop classique de la nuit, la noche oscura bien sûr, la nuit conçue comme la pathétique absence du bien-aimé qui se cache et qui met à mal la bien-aimée, ou le désir de la bien-aimée. J'ai moi-même écrit sur des peines intérieures, dans le Carmel français par exemple, du 19e siècle, et j'avais en tête cette définition simple, restreinte, de la nuit. La peine de cœur qu'on éprouve quand le bien-aimé s'est caché. La difficulté de prier, la sécheresse. Sécheresse versus consolation. J'avais ça dans la tête. Maintenant, grâce à vous, nous sommes beaucoup plus riches. Nous allons chercher la nuit sous bien d'autres facettes encore. Je crois que chacun de nous peut être rejoint sous un mode ou sous un autre, éventuellement très personnellement, par tel ou tel de vos chapitres. Un grand merci, François.
Oui, je suis bien en peine, car certes, d'avoir suivi Thérèse pas à pas me donne peut-être quelques droits de parler un peu ici, mais pour le reste, je me situerai, non pas volontairement, mais par nécessité un peu avec quelques distances, non pas une distance vis-à-vis de l'ouvrage lui-même, mais une distance vis-à-vis de l'objet de l'ouvrage. Et donc, j'ai en même temps le sentiment que tout ce que j'avais préparé, écrit, est dérisoire et peut-être à côté, mais selon une formule un peu brutale, le vin étant tiré, il faut le boire. En tout cas, je veux d'abord dire que ce livre est pour moi imposant, longuement médité, d'une belle écriture, témoin d'une culture littéraire autant que philosophique, et je prendrai un peu l'image que j'avais utilisée à propos de Michel de Certeau, que j'avais connu comme historien, en disant que année après année, il venait dans des séminaires qui s'appelaient le groupe de la Bussière, je pensais pouvoir le suivre un peu plus ou rester un peu plus longtemps dans ses pas, et c'est un peu, dans le fond, la même chose. À chaque fois que je vous lisais, je m'émerveillais, et en même temps, je faisais encore un pas de côté, en quelque sorte. Donc, si vous voulez, cette expérience, ce livre qui parle à la fois des femmes mystiques et donc de la nuit dont Dominique a parlé avec une si grande intelligence et qualité d'expérience, cette nuit périlleuse dont témoignent ces mystiques, je le retiendrai paradoxalement, ou plutôt j'étais bloqué à un moment sur cette expression que vous employez à un moment, nuit qui touche aussi, dites-vous, particulièrement les femmes, selon un propos de Tacitus que vous faites vôtre, car pour elles, cette nuit ne sera jamais, je cite, assez opaque pour absorber l'humiliation, justement, d'être une femme. Et dans les interviews que vous avez données à KTO, vous voyez, j'ai quand même essayé de chercher un petit peu, vous donnez une version, je dirais, plus soft, plus positive, de cette noirceur quasi ontologique, en parlant de génie féminin. Alors, je suis un peu troublé sur ce type de nuit. Il serait peut-être utile de nous préciser les raisons qui transforment une réalité constatée, l'absence de mystique masculine à ces époques, ou à cette époque, en un quasi-essentialisme qui, en terre catholique, est souvent une commodité. J'ajouterais, pour mieux introduire à cet ouvrage, qu'il est le premier que vous aventurez à signer seul, après avoir collaboré de manière si importante au Bremont, et avoir porté dans l'ombre, en signant une centaine de notices, j'ai pas fait le total, mais enfin, c'est à peu près cela, qui montre que ce livre est aussi un peu le vôtre, et qu'effectivement, à force d'avoir fait peut-être trop de notices, vous avez remis celle qui concernait les 8 retenues à la fin en disant que si les gens ne vous comprennent pas en vous lisant, ils pourraient toujours aller les chercher. J'ai aussi eu l'impression que vous ne vous contentez pas d'en appeler au témoignage d'autrui de ces 8 femmes que vous convoquez, mais que vous conviez ces femmes à participer avec leur voix singulière à un ensemble choral dont dans l'ombre vous tenez toujours la baguette. Et cette orchestration en fait assurément l'unité profonde, mais dans un équilibre qui me semble quand même précaire entre ce que ces mystiques ont vécu dans leur singularité et j'adhère à tous les exemples qui ont été pris, et ce que vous quêtez à travers elle d'une traversée cruciale personnelle. Dominique-Marie Dauzet a rappelé justement, voilà 10 ans, avec sa mystique bien tempérée, qu'il avait tracé le premier un sillon esquissant également 8 portraits, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, en font 8 à chaque fois, là, vous ne vouliez pas rester à 7, je présume, qui était un signe de perfection. Je partirai du constat simple et sans doute insignifiant qu'aucune de celles que vous aviez choisies l'un et l'autre ne se recoupe. Ce qui s'explique certes par vos itinéraires, mais me semble-t-il aussi par quelque chose dont Dominique a donné quelques exemples, c'est qu'il y a foison de femmes dès la fin de ce 19e siècle et dans tout ce 20e, peut-être, je ne sais pas, avec une acmé dans les années 40, mais ce serait à voir. Un continent que Jacques Maître avait déjà commencé à explorer dans des petites notices, mais qu'il serait bon peut-être d'essayer ici et d'identifier, même de manière grossière. Je reviens simplement ici au livre qui nous réunit. Elles sont toutes nées au tournant du 19e siècle, entre 1873 et 1914, donc en 40 ans, mais elles mettent leur mort s'étale sur 100 ans, ce qui veut dire simplement que les unes ont vécu 24 ans comme Thérèse et d'autres comme Adrienne Van Speer, 95. Si l'on veut un peu encore les compter bassement, pourrait-on dire, alors que l'on est dans des hauteurs spirituelles, elles ont toutes vécu dans l'Occident européen, France, Allemagne, Pays-Bas, Suisse, un peu à l'écart, la macédonienne et future mère Teresa, qui sera à partir de 18 ans longuement irlandaise. Elles se retrouvent aussi toutes dans l'orbite du catholicisme romain, qui les a reconnues pleinement siennes comme docteur de l'Église, Thérèse, sainte seulement, j'oserais dire, Edith Stein et mère Teresa, voire peut-être apte à le devenir. Marie-Noël, on a parlé d'ouvrir son procès. Marie de la Trinité, on l'a rappelé, a vécu dans une famille dominicaine, contrainte, a-t-on dit peut-être. Adrienne Van Speer était cofondatrice de l'Institut séculier. Effectivement, Simone Veil, par sa carrière intellectuelle, par son intérêt pour la chose politique, détonne davantage, ainsi qu'Etty et les Zoom, à la vie sentimentale, au moins à ses débuts chaotiques. Je retiendrai toutefois 2 éléments plus évidents de différenciation qui me frappent et qui, pour le premier, me ramènent à ce que disait Dominique. Excusez-moi, Dominique était quelqu'un de proche, et donc j'oublie toujours que c'est qui est le père Dominique-Marie Dauzet. Donc le premier, c'est effectivement que vos témoins meurent beaucoup entre 42 et 43, la guerre bien sûr, durant la guerre comme Simone Veil ou par la guerre comme Edith Stein et Thierry Zoom. Mais plus important me semble-t-il, quoique ce premier point mériterait d'être peut-être repris, vos femmes viennent d'ailleurs. Elles sont converties qui du judaïsme, faut-il le rappeler, Simone Veil, Edith Stein, Thierry Zoom, pardon, d'où le sort tragique de ces 2 dernières, ou du protestantisme, comme Adrienne Van Speer, la muse, pourrait-on dire, d'Urs von Balthasar. Et je m'interrogeais sur l'importance de ces femmes. Est-ce à cause de vos préférences, ou est-ce la confirmation que ces femmes venues d'ailleurs trouvent sans peine dans un catholicisme alors attractif la réponse à leurs besoins spirituels, comme aussi le jeune Aaron Lustiger, mort voilà 10 ans et dont on a dont on sort d'un long colloque de 3 jours est fort intéressant. Mais ma question serait, viennent-elles, en se dépouillant de leurs origines, ou de leurs origines au sens le plus large du terme, ou celles-ci marquent-elles d'un saut spécifique, une expérience que vous montrez bien partagée? Je n'ai pas eu l'impression, en vous lisant, que ce point était souligné, mais bon, peut-être vous ai-je mal lu. J'avancerai encore dans ce qui singularise ces femmes par rapport au passé, une mystique, oui, vous l'avez dit, quasi exclusivement féminine, mais aussi l'absence, sauf chez Adrienne, de ces phénomènes extraordinaires que l'on associe traditionnellement à l'expérience mystique. Et encore une écriture de soi, volontaire ou suggérée, qui fonde solidement l'analyse que vous conduisez. Faudrait-il ajouter une dernière caractéristique que vous suggérez quand vous dites de temps en temps, comme en passant, que la référence obligée à la nuit de Saint-Jean de la Croix n'est peut-être pas la clé qui introduit à ces expériences nouvelles qui plutôt s'éclairent l'une l'autre. Et donc l'historien ne peut s'empêcher de constater que vous entrez avec des analyses renouvelées dans un débat qui commence dans les années 1920, autour de la nouvelle mystique. Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle mystique qui aurait dépouillé en quelque sorte les oripeaux de la mystique traditionnelle, des extraordinaires de la mystique traditionnelle, et dont Thérèse serait justement, Thérèse de Lisieux, le porte-flambeau? En tout cas, c'est bien de cela pour l'essentiel que vous nous montrez, avec le sens de votre nuit si polymorphe. Vous hasardez dans le début de votre belle conclusion, plus dépouillée et méditative, me semble-t-il, plus facile peut-être de ce fait à suivre, cette interrogation au sujet de vos héroïnes. N'avaient-elles pas vaillamment tenu bon face à l'idole, que ce soit l'impérialisme rationnel de la modernité, le conformisme social et religieux, la pensée normalisée, et bien pensante, et enfin, à partir des années 30, le monstre solitaire, je ne sais pas s'il était solitaire, mais enfin, il était là. Interrogation à laquelle, me semble-t-il, vous n'apportez pas de réponse, au moins directement. Vous esquivez le rapport que ces femmes entretiennent avec, pour leur dire banalement, le monde qu'elles traversent et qui, vous en convenez, les traverse durement. Et il y a là une question que l'on ne peut pas ne pas se poser. Je me demande aussi si chaque cas évoqué n'est pas d'abord singulier. Je m'en tiendrai pour me faire comprendre à deux exemples. Thérèse d'abord, vous avez eu l'amabilité de citer mes travaux sur Thérèse, et surtout j'ai été très touché de voir que ma quête érudite, vous avez mieux fait accéder, m'avez-vous dit, avec toute la liberté du croyant et du spirituel et du théologien, à Thérèse. Et pour quelqu'un qui s'est livré à un travail un peu besogneux, cela m'a fort touché. Or, il me semble que son entrée dans la nuit, qui est assez connue, et je pourrais être bref, peut susciter deux remarques. L'une assez prosaïque. Son entrée dans la nuit, ce vendredi saint de 1895, comme elle le dit elle-même, sans, me semble-t-il, savoir qu'il y a un rapport de cause à effet, tient sans doute dans la révélation soudaine que la mort devenait non une éventualité que nous partageons tous, mais l'annonce inéluctable d'une vie abrégée. À ce principe de réalité qui soudain entre en elle et lui mûre son ciel, s'ajoute l'ouverture à autrui, à laquelle cette nuit l'a conduit, puisque en même temps qu'elle entre dans la nuit, sa nouvelle prieure lui confie les novices, et dès le mois de juin, lui confie ce frère roulant qui lui arrive soudain en 1895 et dans lequel elle découvre un frère donné de toute éternité et dont la survenue n'est pas étrangère à sa possibilité de faire jaillir de sa nuit justement cette écriture illuminée qu'est le poème de septembre, ainsi ai-je appelé le manuscrit B. Le cas de Marie de la Trinité, sur lequel je voudrais terminer, me semble un peu différent et je ne partagerai, enfin, je partagerai une autre analyse que celle de Dominique Marie d'Auzet. Cette dominicaine des campagnes, cette vocation contemplative contrariée par des directeurs spirituels obtus, je résume votre présentation, je ne la prends pas à mon compte, mais sans doute assez juste quand même, paiera après la Seconde Guerre le prix fort de cette tragique erreur d'aiguillage, en tombant dans une lourde dépression qui la livrera au risque de la psychiatrie de l'époque, lobotomie comprise qu'elle a évitée de justesse, semble-t-il. Vous faites un bel usage pour analyser cette nuit mortifère qui l'a conduit en imagination à se voir comme une pourriture et à souhaiter l'enfer qu'elle mérite pour être délivrée d'une insupportable angoisse, un document singulier, la relation brève de ses malheurs écrite pour Jacques Lacan, qui l'aidera quelque peu à sortir de cette dépression sans fin. Et vous ne dites rien de ces longs écrits qui ont précédé durant le temps de la guerre et qui sont publiés récemment, qui ont été publiés récemment, encore le CERF, en 5 volumes. Or, d'après ce que j'en avais lu et expliqué dans un séminaire que j'avais fait il y a une quinzaine d'années, que j'avais consacré au désir de sacerdoce des femmes, j'avais eu ce document manuscrit, il n'était pas encore publié à ce moment-là, un peu par hasard, une de mes collègues se trouvait être la nièce de Marie de la Trinité. Et sa mère, donc, était la confidente familiale avec laquelle elle se livrait. Confidente, d'ailleurs, qui ne connaissait pas du tout ses problèmes mystiques et donc qui tombait quelque peu de haut en voyant l'angoisse qu'elle a traversée. Or, d'après ce que j'avais lu et j'avais essayé d'expliquer, ce document, me semblait-il, avait été lu dans un premier temps avec les lunettes de Vatican II. Elle cherchait le sacerdoce des fidèles, point barre. Or, quand on le lit et le relit, ces longues pages, ces 3000 pages de 6 années, de 1940 à 1946, donnent au contraire, me semble-t-il, l'impression d'un ressassement indéfini. Et j'y appliquerai volontiers ce que Thérèse disait pour autre chose, de voir Marie de la Trinité voler comme de pauvres papillons et se brûler les ailes, ou encore, comme il a été dit tout à l'heure, comme un oiseau qui est dans sa cage et qui se débat. Or, il me semble que elle allait effectivement dans ce que j'appellerais volontiers une fausse lumière, vers lequel elle aurait été tendue comme avec des espérances. Et quelle était cette tension, cette rumination qui l'a conduit, me semble-t-il, au bord d'une nuit tout autre, c'est cet évident désir d'être prêtre et cette non moins évidente impossibilité de l'être. Et peut-être plus encore, l'incapacité de dire ce désir à travers un discours théologique thomiste, habit rationnel, d'emprunt qui lui est imposé et qui empêche toute expression singulière, de mener à terme sa propre expérience personnelle, d'aller au fond de son désir, quitte à en trouver autrement une nuit. De ces errances de la plume, elle ne trouva pas de délivrance, mais au contraire une sorte d'aliénation qui la conduit à la nuit décrite par elle à Lacan. Et donc, il me semble, mais c'est le sens que je veux donner à ces deux exemples, qu'il est peut-être souhaitable de rétablir quelque peu l'histoire de ces femmes. J'ai pris deux exemples pour bien voir dans quelle mesure chacune est singulière, au péril de la nuit ou des nuits singulièrement périlleuses. Merci.
Comment vais-je m'y prendre pour vous répondre, chers amis? Écoutez, cher Claude Langlois, de fait, je vous avais avoué, je crois, que c'était grâce à vous que cette petite Thérèse, avec laquelle cette longue méditation aura commencé, Thérèse qui était entrée dans, allez, disons-le, quelques indiscrétions biographiques, qui était entrée dans ma vie en 1992 à la faveur d'une retraite contrainte et obligée, mais là, c'est là, ça a bien tourné, tout. Et donc, elle m'a fasciné. Et puis, grâce à vos ouvrages, grâce à vos commentaires si incisifs, si précis, je suis entré dans la vie de Thérèse. Et en quelque sorte, nous menons depuis, et grâce à vous, une sorte de compagnonnage dont vous avez peut-être eu, là, d'ailleurs, en me relisant, j'ai eu la surprise de voir que je prenais la parole en lieu et place de Thérèse à certains moments. Non ? Ah bon, donc ça va. Je suis autorisé. Hein, voilà. Mais c'est vrai, ce que vous venez de signaler, j'allais dire en bon historien que vous êtes et que je ne suis pas, c'est-à-dire cette coïncidence, si vous voulez, de cette irruption de la nuit, ou du moins cette avec l'arrivée du frère prêtre, des deux frères prêtres, je n'y avais pas du tout prêté attention. Ça, c'est exact. Je me suis un peu focalisé sur la seule. Enfin, non, parce qu'il y a d'abord la nuit de Noël, la nuit de Noël 86, qui est importante, puisqu'elle va déterminer en quelque sorte l'axe et le sens de sa vie. Et donc, il y a cette fameuse Pâques 96, où paradoxalement, ce qui devrait être, au moins liturgiquement, et je veux dire dans l'ambiance spirituelle, je veux dire l'éclat de la lumière se renverse complètement. Hein, il y a une sorte d'oxymore existentiel là. Pâques devient la fête des ténèbres. Bon. Évidemment, là, je n'avais pas du tout vu comment. Si j'avais l'arrivée des frères prêtres l'a déchargé en quelque sorte de ce vœu impossible à honorer qu'avait fait peser sur ses épaules à la petite sa propre mère Zélie Martin, qui aurait tellement voulu avoir un fils qui devint un prêtre. Bon, et c'était pas le cas, c'était une fille, en manque de chance. Enfin, elle sera quand même docteur de l'Église, et puis canonisée. Vous avez l'air de tenir ça pour pas grand-chose, mais c'est quand même pas mal, la canonisation. Ah, non, j'ai dit ça en plaisantant. Non. D'accord, oui, d'accord, c'est le... Très bien. Très bien. Hein, c'est... Voilà. Bon, ben, ça va, on... Voilà. Quant à, si vous voulez, Marie de la Trinité, évidemment, ces longs écrits dont vous signalez la publication récente, je ne les avais pas en main. Quand j'ai commencé à écrire le dit chapitre, j'avais juste les fragments, les florilèges qui avaient été publiés par les éditions Orfuyennes, donc, qui brossaient plutôt qu'elles ne dressaient un portrait de la dite Marie de la Trinité. Alors, je ne partageais pas, j'allais dire, l'enthousiasme du frère Héry de Clermont-Tonnerre. Je pense que... c'est ça. Alors, et puis, la question, évidemment, de la prêtrise, qui était déjà latente avec Thérèse, puisque Thérèse veut devenir prêtre. non pas du sacerdoce, j'allais dire, universel tel que Vatican II va en donner la définition, mais elle veut le devenir pour dire la messe. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Thérèse se regarde dans la patène, comme dans un miroir, non pas d'une sorte de narcissisme sublimé, mais pour devenir offrande à son tour. Alors, là, on est piégé justement par la référence à Vatican II, et pour Marie de la Trinité, c'est la question, j'allais dire, c'est la caution Balthazar qui est derrière. Hein, le livre qu'il a écrit, une chose des Spaters, hein, dans le sein du Père, etc., en disant, voilà, en 1920, cette femme, j'allais dire, a tout découvert, et le Concile ne fera qu'expliciter ce qui avait été son intuition première. Ah bon, je suis tout à fait d'accord. Mais si vous voulez, c'est pour ça que j'ai pris du recul par rapport à ça. Et je me suis concentré essentiellement sur la grande crise, hein. Donc, parce que, ensuite, j'ai vu arriver également la correspondance entre Marie de la Trinité et Mère Saint-Jean, qui n'est pas d'une clarté totale, entre nous soit dit. Hein. Oui, oui, c'est... Bon. Et la biographie, oui, oui. Oui, voilà, voilà. Non, mais c'est pour moi la compassion. Hein. C'est ça qu'elle a. Et en disant, alors vous l'avez signalé, une vocation contrariée. Hein, et je prétends quand même que les directeurs qu'elle a eus ont été incompétents et tyranniques. Hein, bon. Mais en même temps, il y avait l'avis de Lacan, en disant, au fond, vous avez monté le piège dans lequel vous êtes, hein, puisque vous tenez, je veux dire, ces directeurs à votre merci, en donnant les apparences probables de votre docilité à leur égard. Ça, c'est une ruse qui n'est pas rare dans les couvents religieux. Ben oui, je connais. Bon. Voilà. Donc, cela dit, pourquoi? Alors, vous avez posé la question, pourquoi 8? De même, Dominique Barry en a 8. Alors là, c'est venu un peu, on s'en est aperçu au moment de faire la couverture. Hein, qu'il y en avait 8. Hein, oui, oui. Alors, je donnerai tout de suite un motif hautement théologique. C'est 7+1, c'est l'octonaire, c'est, la plénitude, la perfection, etc. C'est déjà la référence eschatologique. Ça, c'est... Non. Ça, je veux dire que ce serait du biscuit pour journaliste en panne d'écriture. Alors, en fait, ça a commencé avec Thérèse, parce que, je dois dire, et... Je salue, j'allais dire, la lecture que Nathalie nous en a donnée. Ce livre est le fruit, ou le résultat, comme vous voudrez, j'allais dire, de 15 années. Hein, 15 années de maturation, de méditation, d'affrontement, parce qu'elles sont plus grandes que moi, les unes et les autres. Moi, j'étais un petit garçon à côté. Ça, je m'en rendais compte. Hein. Mais finalement, on arrivait presque à pactiser, hein, du moins à rentrer en... en complicité presque, hein, et même en fraternité, en communion, allez, disons-le. Et surtout, ça a commencé avec Thérèse. Alors Thérèse est la première qui s'est imposée à cause de cette irruption tout à fait inopinée, à cause de cette retraite téléguidée par le diocèse de Paris, dans lequel j'étais alors. Et puis, donc les choses se sont... Alors, je dois aussi signaler le film d'Alain Cavalier, Thérèse, qui m'a extraordinairement marqué, qui m'a paru d'une grande justesse, mis à part quelques fantaisies du scénariste, bon, inventant des choses qui n'apportaient rien, à mon avis, à l'ensemble de l'œuvre, mais enfin bon. Et puis, vos propres ouvrages, vous, Claude Langlois, d'accord. Hein, et là-dessus, bien entendu, comme je le signale dans le prélude, parce que vous avez signalé les uns les autres les appellations, qui ne sont pas tout à fait des chapitres. Hein. J'ai conçu, en fait, cet ouvrage comme une suite musicale. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a prélude, postlude, etc., coda, intermezzi. Je voulais dire par là à mon lecteur, bon, il est préférable de lire d'abord le prélude pour en connaître quelque chose, la genèse de cet ensemble, et ensuite chacun pouvait se diriger selon ses goûts, peut-être ses curiosités, voire sa fantaisie. Il n'était pas nécessaire d'avoir lu ce qui était avant pour comprendre tel ou tel chapitre. Bon. Et alors, là-dessus, donc Marie-Noël, ça s'imposait de par ferveur familiale. Hein, ce fameux livre bleu qui est toujours dans mon bureau, hein, avec les œuvres poétiques complètes, là, publiées chez Stock. Et puis, alors, grâce à vous, j'espère que ça va continuer, parce que là, j'ai commencé à lire la correspondance, je vais dire, dois-je l'avouer, j'ai eu les larmes aux yeux. Hein? C'est ça. En disant qu'il a de la chance, l'abbé Munier, j'aurais bien essayé d'être un peu comme lui. C'est vrai. Alors, mais j'aurais pas, évidemment, j'aurais pas été l'aumônier des duchesses et des cocottes. Hein, non. Hein, c'était pas mon genre. Je suis trop sérieux, trop lorrain pour ça. Et puis, je veux dire, il avait quand même ce flair littéraire, repéré Proust. Ça, c'était quelque chose. Hein. Bon. Alors, c'était sa grâce d'état. Moi, j'en ai d'autres. C'est pas celle-là. Alors, et donc, Marie-Noël s'imposait. Et puis, alors après, c'est grâce au père Calvez, ici même, dans cette bonne maison, il m'a demandé d'assurer des cours sur Simone Veil. Ah bon, très bien, alors j'avais entendu parler quand même, la pesanteur et la grâce, dont j'ai compris depuis que ce n'était pas un ouvrage de Simone Veil, mais plutôt, donc ce Florilège était l'œuvre de Gustave Thibon. Hein. Mais en même temps, les œuvres complètes, je veux dire, commençaient à apparaître chez Gallimard, donc...
Hein, l'ordonnancement.
Oui, oui.
Hein. Les phrases sont de Simone.
Oui, d'accord, mais... Bon,
mais il y a une construction.
Il y a une construction qui n'est pas forcément celle de Simone. Bon, ensuite, donc Edelstein. Alors là, j'ai un peu reculé parce que je me suis dit, bon, c'est un bergevique qui me demande, allez, courageusement, on y va. Parce que Edelstein est relativement difficile à comprendre. Alors ça, d'autant plus. Et je vous l'avoue, le chapitre qui m'a demandé le plus de travail, je l'ai recommencé six fois de suite. Je n'étais pas satisfait. Je n'arrivais pas à savoir. Elle me répondait toujours comme à son collègue phénoménologue, là. Secretum mihi, mon secret à moi. J'ai dit, oui, d'accord, mais quand même, tu pourrais faire un effort. j'ai tout d'un coup, c'est peut-être anecdotique, mais pour moi, c'est apparu comme lumineux, cet incident de ses quasi 20 ans, quand elle a failli mourir accidentellement à cause d'une fuite de gaz dans la chambre à coucher, et elle s'est rendue compte, pourrait-on dire, de son désespoir mélancolique, alors que c'était une étudiante promise au meilleur destin, je veux dire, au meilleur succès, hein, universitaire, déjà, c'était notable. De tous ceux qui l'entouraient et la guidaient, en quelque sorte, dans cette voie académique. Bon. Et puis, alors, ça, extraordinaire, ce qu'il a en quelque sorte remis en selle, c'est un festival Bach. Ah, je dis, formidable. Bach, le théologien. Voilà, hein, notre saint père le Bach. D'accord. Et donc, c'est cette fameuse cantate, Ein Festburg in Sorgott, qui a été comme le déclic, si vous voulez, chez elle, et qui a amorcé, pourrait-on dire, conversion, si vous voulez, pas encore confessionnelle, hein, la conversion de la foi, hein, et qui va être, assise sur la lecture de Thérèse d'Avila, de l'autobiographie de Thérèse d'Avila, d'accord. Mais, cela dit, j'ai dû ramer, hein, pour... Et ce qui m'a éclairé, déjà je me suis rappelé, alors là, sans même que vous m'origéniez comme historien, cher Claude Langlois, je me suis rappelé quand même, 1933, oh, la situation en Allemagne, que se passe-t-il? Et alors, j'ai lu un article de Paul Thibault qui m'a fait comprendre que Adolf Hitler était l'anti-messie, le messie, si vous voulez, l'imposteur. Et que ça, Edith s'en était rendu compte tout de suite. La preuve, elle écrit au pape Pie X. Pour l'avertir de ce qui se passe dans l'Allemagne d'alors. Les exactions, etc., la persécution des Juifs, etc. Bon. Et donc, là, je comprenais pourquoi, tout d'un coup, tout son itinéraire intellectuel commençait à basculer pour s'intéresser à la philosophie politique, son essai sur l'État, puis ses essais sur la personne. Voilà, on revenait à la personne. Et c'est finalement, là j'ai trouvé, saveur et compréhension. Alors non pas dans Être fini, être éternel, là, parce que Être fini, hélas, le livre ne l'est pas. Si, le livre l'est, au bout de 400 pages. Être éternel, le livre l'est aussi. Oh, si, mais quand est-ce qu'elle va se terminer? Enfin bon, peut-être que la traduction dont nous disposions jusqu'à présent était défaillante, je veux bien l'admettre, j'attends donc vaillamment une nouvelle traduction. Mais, cela dit, c'est la correspondance. Moi, j'attache beaucoup d'intérêt aux correspondances, parce que dans une correspondance, vous ne pouvez pas tricher très longtemps. Hein? Et là, une correspondance avec une de ces sœurs carmélites de Cologne, Maria de Dieu, hein, qui était absolument étonnante. Les deux carmélites qui correspondent, hein, deux générations en quelque sorte, l'enthousiasme juvénile de Maria de Dieu, et puis, je vais dire, le sérieux, la gravité, le travail, j'allais dire pas à pas, de, je vais presque dire déjà la vieille carmélite, qui était devenue Edith. Bon, voilà. Mais elle, c'est vrai qu'Edith Stein était au pivot de l'ensemble, de l'ouvrage. Alors je me suis demandé, pourquoi n'est-elle pas comme les autres? Les autres sont, même Thérèse, sont atteintes par la nuit. Je veux dire, elles sont presque, certaines, complètement abîmées, déglinguées par la nuit, comme Marie de la Trinité. Les autres, plus ou moins, bon. Mais là, Edith Stein, elle traverse la nuit indemne. La nuit du monde et la nuit spirituelle. Ce que je semble suggérer comme hypothèse, c'est son enracinement dans la tradition juive, dans la communauté juive. Je ne pourrais pas le dire la même chose pour Simone Veil, qui était trop grecque et qui avait un anti-judaïsme quasi forcené pour vraiment qu'elle reconnaisse, malheureusement, je vais dire, les bienfaits de la tradition juive, de la tradition biblique, ou du moins de l'ensemble de la tradition biblique, car elle départage, enfin, elle fait son petit martion. Bon. Et puis vous avez évidemment Est-il soum, mais je comprends votre enthousiasme, Nathalie, je l'ai partagé après avoir lu, mais en même temps je me refuse à en faire une chrétienne contre elle-même. Ça non, ça c'est pas possible. D'ailleurs, tout simplement parce qu'elle prend comme maître spirituel Rainer Maria Rilke, qui était un antichrétien notoire. Bon. Hein? Mais malgré tout, c'est exact que vous avez signalé cette fameuse prière du dimanche matin. C'est vrai qu'elle est admirable, qu'elle est puissamment troublante et émouvante. Et c'est pourtant, je maintiens, chère Nathalie, je maintiens ce que je dis dans chaque credo de chaque dimanche, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. Voilà. Eh oui. Et alors en quoi consiste évidemment, c'est là le nœud du problème, la toute-puissance de Dieu. Je ne m'en sortirai pas, si vous voulez, en disant c'est la toute-puissance de l'amour. Bon, oui, d'accord, bon, ça c'est bien pour des prédications rapides. Mais ça ne résout pas le problème, ça ne résout pas la question. Hein. Donc là, avec Est-il soum, c'est exact que nous avons une sorte de, depuis sa vie initialement très chahutée au point de vue affectif, et puis arrivant à une certaine sérénité, hein, il faut le dire, grâce à la découverte, via Julius Speer, son psychothérapeute assez étonnant, dans ses méthodes à tout le moins, de la littérature russe, donc il y a quand même quelques chrétiens qui mettent ça. Saint Augustin passe par là aussi. Et puis les textes bibliques. Mais dans les textes bibliques, j'ai noté que de fait, la passion sur Saint Matthieu, d'accord, la résurrection absente. L'eschatologie, n'en parlons pas, comme pour Simone Veil d'ailleurs. Hein. Pas d'eschatologie chez Simone Veil, me semble-t-il. Bon, donc là, on reste vraiment en deçà du seuil, disons, d'une décision chrétienne. Hein. Alors, celle qui m'a... Bon, Adrien von Speer, c'était celui qui suivait un peu les progrès de cette lente gestation. Je veux nommer et le remercier ici publiquement Yves Roulière, qui était rédacteur en chef adjoint de la revue Christus. Donc, Yves Roulière m'avait dit, ben, Adrien von Speer, vous ne pouvez pas y couper. Bon, d'accord. Alors. Et alors là, je ne me suis pas facilité les choses, parce que les textes que j'invoque, là, dans ce chapitre, ne sont pas traduits en français encore. Donc il a fallu que je m'aventure dans le texte allemand, vous me direz, venant de l'Est, de Lorraine, de fait, on est proche de la frontière, proche du Rhin, donc... d'accord, bon. Mais j'ai éprouvé, comme Dominique Marie l'a très bien senti, une certaine perplexité devant cette construction imaginale d'Adrienne, mais à mon avis, elle méritait. Elle méritait surtout qu'il y avait la caution balthazarienne qui était derrière. Alors, qu'est-ce qui est de Balthazar? Qu'est-ce qui est d'Adrienne? Ça, on ne se saura jamais. Peut-être au ciel, s'ils veulent bien nous le dire. Et encore, s'ils se souviennent de leurs ébats théologiques. Bon. Et puis, alors après, Mère Teresa. en effet, tombe dans le domaine, dans le public, la publication de la correspondance, stupeur des journalistes, comment la sat au sourire, etc. De voir la nuit qui l'environne, bon, alors c'est exact, mais je me suis rendu compte alors d'une chose qui était déjà peut-être perceptible avec sa sainte patronale, c'est-à-dire Thérèse de Lisieux, c'est ce que j'appellerais, et le mot est revenu sous votre plume, Nathalie, c'est la question du sacrifice. Alors je dois avouer que, autant la nuit, bon, c'est une question qui me hante depuis 50 ans. Eh oui. Et, j'allais dire adjointe à cette question-là, la question du sacrifice. Bon, qu'est-ce que le sacrifice ? Je me refuse à, j'allais dire, réduire cela à un rituel d'offrande pour calmer, pour tempérer une divinité courroucée et exigeante ou intransigeante. En revanche, je dirais volontiers, ça c'est très sensible, même si je ne l'ai pas marqué, si je ne l'ai pas dit, dans le chapitre sur Mère Teresa, le sacrifice c'est le moment où tout s'effondre, absolument. Les convictions ou les certitudes de la foi, bien sûr, le sentiment savoureux de la présence du bien-aimé qui disparaît, la légitimité de la vie de la communauté, voire le pourquoi qui se pose d'interrogation sur la liturgie. Et il ne reste dans ce désastre total que la souffrance, c'est tout. Et c'est avec cette souffrance-là qu'on s'adresse à Dieu. Je crois que le sacrifice, c'est ça. Alors vous avez eu, Nathalie, tout à fait raison de poser la question, est-ce que l'amour doit aller jusque-là, jusqu'à cette perte de soi, hein? Ce qui aura été formalisé dans le langage des traités spirituels ou des écrits spirituels depuis le XVIIe siècle, dans la fameuse supposition impossible. Hein? Je la rappelle à l'usage de nos amis auditeurs d'ici. Si Dieu, dans son absolue liberté et volonté, après que j'eus passé une vie d'entière vertu et de fidélité à son service, décidé de m'envoyer en enfer, eh bien, comme dit saint François de Sales dans le traité de l'amour de Dieu, comme ça, en passant, j'irai volontiers en enfer et je continuerai à l'y aimer. Voyez tout de suite le paradoxe, là, l'oxymore, c'est extraordinaire, parce que si quelqu'un aime en enfer, il n'y a plus d'enfer. Et vous retrouvez le même paradoxe chez Thérèse de Lisieux, dans son autobiographie, le Manuscria. Bon, elle dit c'est de la folie, mais quand on aime, on recule pas devant la folie. Hein. Et donc voilà, la question c'est celle de cette pureté de l'amour. Vous avez raison, Nathalie, de vous méfier de la pureté. C'est vrai. Hein. Parce que elle peut être un vertige narcissique ou de pur orgueil. C'est exact. Hein. Et donc, peut-être, selon le titre d'un livre tout à fait récent, faut-il faire l'éloge de l'impur ? Pourquoi pas ? Et en tout cas, la question va se poser brûlante au XVIIe siècle, s'exacerber dans la querelle finale qui va clore le XVIIe siècle, à savoir la querelle justement avec Bossuet, Fénelon, Madame Guyon, hein, la querelle de l'amour pur. Est-ce qu'il est envisageable d'aimer au point de désirer sa propre perte, par amour ? Bon. La question reste en suspens, hein. C'est exact, mais vous avez tout de suite donné, je vous en remercie, un certain nombre de contre-feux. En particulier, en dehors peut-être, non pas de réaction, je vais dire, d'un bon sens, presque terrien. Pourquoi pas, hein? Ça peut faire du bien. Hein? Heureusement, Gustave Thibon était là pour un peu... notre Simone Veil l'a ramené, non pas dans la glaive, mais enfin entre les pampres des vignobles où elle travaillait. Hein? Bon. La question est posée, et vous avez eu raison d'évoquer à la toute fin la communauté. La communauté, c'est-à-dire, et au fond, c'est peut-être ce qui a sauvé Mère Teresa, c'est parce que, quoi qu'elle fasse, elle pouvait pas sombrer totalement, je vais dire, dans le vertige de son sacrifice, parce qu'il y avait les autres sœurs qui étaient là et qui comptaient sur elle. Il y avait les malades qui étaient les mourants qui étaient là. Donc, je vais dire, il fallait qu'elle, non pas par hypocrisie, certainement pas, il fallait qu'elle arbore ce sourire qui était en elle l'œuvre paradoxale de la charité pour les autres, pour autrui. Ça, c'est un des traits pour moi de ces 8 femmes, c'est que en plus de l'endurance dont elles témoignent dans leur épreuve, de l'audace dont elles font preuve, je veux dire, jusqu'au blasphème pour une Marie-Noël, c'est quand même étonnant cela, cette bonne paroissienne, cette bonne provinciale, si cadrée par la vie de province d'Auxerre, etc., va jusqu'à le petit extrait que vous avez lu, de Ténèbres. Hein. Mais en même temps, Ténèbres, quand je l'ai lu, je veux dire, j'étais préparé par une note intime où, qui a intitulé le curé de campagne. Parce que c'est des gens en germe là-dedans, dans cette seule note intime. Mais là, c'est extraordinairement développé. Hein. Et là, on pourrait dire que Marie-Noël, un peu, peut-être qu'on va trouver aussi d'autres trésors. Je l'espère. Parce que elle a la même intuition qu'un Bernanos de ce qu'est, pourrait-on dire, l'expérience des prêtres. Ce dont vous ne vous doutez pas, chers paroissiens. On est toujours souriants, n'est-ce pas? Bon. Alors, quant à Simone Veil, alors c'est vrai, il y a cette nuit, où c'est vrai que j'ai accentué, Dominique-Marie, vous avez raison, j'ai surtout accentué la question de comment de la nuit, déjà le commentaire du fameux prologue à la connaissance surnaturelle, qui est inépuisable au fond, hein, derrière cette fiction, où elle parle-t-elle d'elle-même ou pas? Ça, c'est, je laisse la question ouverte. La question, c'est avec Simone, cette espèce de désarroi qu'elle éprouve quand elle est rejetée, hein, geworfen, dirait Heidegger, en dehors de la chambre de la sagesse. C'est-à-dire que et sa mémoire ne lui donne plus, ne lui restitue plus des bribes de cet enseignement qu'elle a reçu comme une sorte de conversation entre amis. Bon. Elle va errer. Je crois que c'est capital, d'autant plus que ça va prendre cher, si tant est qu'on puisse parler de chair avec Simone Veil, qui est l'anorectique, comme vous l'avez rappelé, hein, c'est quand elle va se rendre compte à Londres, et qu'elle rentre dans sa chambre, dans le sanatorium d'Ashford, où elle va mourir quelques jours plus tard, elle dit « voilà un bel endroit pour mourir ». Elle a compris. Elle a compris, non pas simplement, si vous voulez, la défaillance de son corps, que la tuberculose l'aura mangé, etc., c'est pas ça, mais elle aura compris son échec. C'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, le juste jugement salubre de Thibon, elle renonce à tout, sauf à son renoncement. Et on en est tous là. Je vais dire que là, c'est un trait caractéristique de ce que, au XVIIe siècle, on appelait l'amour propre. Je veux bien tout vous donner, Seigneur, mais je ne vous donnerai pas mon propre don. Donc, contre quoi vais-je le monnayer? Et voilà le problème, c'est qu'il le veut aussi. C'est ça le problème. Bon. Alors, la nuit de Carcassonne, j'avoue avoir fait l'impasse. Je vais vous expliquer pourquoi, cher Dominique Marie. Parce que, de fait, j'en avais connaissance, mais ces textes-là, ces lettres de Simone, je les ai lus et travaillés avec des handicapés. Donc, douloureusement frappé par le destin, je pense en particulier à la sœur d'un de vos frères, victime d'un accident dans les Alpes. Voilà. Et alors, Christine, c'était son nom, d'un côté, et puis il y avait Pierre, beaucoup plus paisible, plus âgé, qui, lui, se préparait en plus au diaconat. Je ne sais pas où il en est. Hein, donc, ils sont dans une maison à Paris, et donc, ils venaient une fois dans ma paroisse à Saint-Cloud, et ont travaillé Simone Veil. Révolte de la petite Christine. Hein? Une autre jeune femme qui avait reçu un coup de pied de cheval en plein dans l'abdomen, toutes ses fonctions cérébrales en avaient été affectées, elle était muette, parce que le mutisme. Elle pensait, d'ailleurs, on le voyait à ses yeux, hein, elle comprenait ce qu'on disait, mais elle ne pouvait rien dire. Et puis il y avait Pierre, le très paisible Pierre, et qui disait de Simone Veil, « Oui, elle a raison, je comprends. » Alors que lui ne pouvait pas sortir de son fauteuil. Alors, si vous voulez, j'étais trop influencé par cette... Moi, je me sentais aussi dans une petitesse vis-à-vis de, au moins de ces trois. Quelquefois, il y en avait également une quatrième. Mais ces trois personnes, je veux dire, que, là, qui donnaient une... Et d'ailleurs, les autres auditeurs de ce cercle qu'on faisait le jeudi après-midi, je veux dire, on était tétanisés d'émotion et en même temps de reconnaissance. Voilà. Donc... Et puis, je suis donc arrivé, donc on m'a dit, ah oui, mais il y a, alors là on commençait, il y avait quelques feuillets Marie la Trinité qui commençaient à être publiés, je vous ai dit, par Arfuyen, et Yves Roulière m'a dit, bah là aussi, il faut y passer, hein. Lisons Marie la Trinité. Oh, là, c'était l'effroi pour moi, vraiment de me dire que c'était, elle est... C'était vraiment, bon, comme vous l'avez dit, Claude Langlois, la vocation contrariée, etc. Une fille malheureuse, elle aurait été si bien au Carmel. Hein. Mais elle n'aurait pas eu, évidemment, ces grandes extases dans le sein de la Trinité. Ça, très probablement. Hein. Très probablement. Et donc, la contingence, c'est vrai, de l'expérience mystique, hein, due à des conditions externes qui paraissent peu favorables. Alors, quand j'ai... Là, c'est vrai que je me suis avancé, où j'ai parlé d'un athéisme spécifique des femmes. Yves Roulière m'a dit, vous maintenez cette expression, vous allez vous faire accrocher là-dessus. Jusqu'à présent, non, personne n'a remarqué. Donc, mais là, vous pouvez maintenant. Alors, oui, je pense, si vous voulez, qu'il y a un athéisme spécifique dû... Alors, les hommes, s'ils ont l'athéisme, j'allais dire, fait partie de leur bagage, ils ont ça dans la musette, mais c'est un athéisme ou militant ou cérébral, spéculatif, si vous voulez. Alors que les femmes, il me paraît que c'est autre chose. Et là, je reviens à la question que vous souleviez au tout début. Oui, j'ai eu, c'est aussi Claude Langlois qui l'a sauvé, j'ai eu le malheur de parler de génie féminin. Mais je crois, sur KTO, je m'en suis défendu. Enfin, oui, Non, mais je vais dire pourquoi, parce que, c'est un, pour en voir. Si vous voulez, parce que c'est une controverse à Rome en ce moment là-dessus. Les femmes protestent vigoureusement contre l'usage de cette expression qui semblerait les renvoyer, je veux dire, bien haut dans les sommets de leur excellence, tandis que nous autres, pauvres masculins, pauvres clercs, pauvres humains des vallées, je vais dire, profondes, d'en bas, nous continuerions à organiser, à diriger les choses, comme ça, elles sont tellement là-haut qu'elles nous fichent la paix. Quoi. C'est à peu près ça. Hein. Donc, alors, je ne vais pas parler de génie féminin, ou du moins je vais rétractationnesse. Si je reconnais quand même qu'il y a quand même quelque chose de singulier dans l'être féminin, qui a d'ailleurs été tout à fait bien souligné, j'en étais heureux de le voir, par un article de Lucetta Scarafia dans la revue Études, montrant qu'il y avait un rapport à la transcendance, tout à fait singulier des femmes, je veux dire, avec Dieu, avec le Créateur. Moi, j'avais remarqué ça devant le cri de victoire d'Ève, quand elle met au monde Caïn. Évidemment, c'est peut-être pas l'aîné, c'est pas le plus réussi des deux, mais enfin, bon, le deuxième, c'est pas non plus extraordinaire. Le vaporeux, l'éthéré, l'inconsistant Abel. Bon. Tandis que là, elle dit, j'ai conçu un homme de par Yahvé. Ah oui, il y a un temps. Partie négligeable. Détail latéral, collatéral. Bon. Et là, il y a une sorte de fierté féminine, c'est vrai. L'engendrement, parce que comme l'a très bien vu François Héritier, que les femmes mettent au monde des filles. D'accord. Mais qu'en plus, elles mettent au monde les garçons, alors ça c'est... Hein, d'où peut-être, justement, cette réaction, peut-être terrorisée parfois, de méfiance des hommes à l'égard du monde féminin. Ça se comprend tout à fait. Là, il y a une puissance dont, mesdames, vous êtes détentrices, que, sans tomber dans la jalousie morbide, je veux dire, nous autres, les hommes, on peut quand même remarquer. Alors, bon, alors vous me direz, alors on dit oui, il y a une part de féminin dans le masculin, etc. Bon, d'accord, je vais bien, mais enfin, hein, j'ai l'impression qu'on rattrape un peu les choses. Voilà. Et donc, c'est là où, donc, cette fameuse expression, l'athéisme féminin, oui, je pense, qui, malheureusement, mais je pense pas que ce soit le frère Renaud qui va me contredire, a été encouragé par l'étroitesse d'un thomisme officiel. Ça, hein, bon, là, c'est d'accord. Alors, je dis, je peux quand même pas terminer le livre sur ce naufrage, parce que c'en est un. Hein. Et donc, il faut quand même que je donne à mon lecteur de quoi retrouver, non pas de l'espoir, parce que comme l'a très bien montré la Frédéric Boyer dans le livre, tout récent, magnifique livre, hein, Là où le cœur attend, que vous avez si bien chroniqué dans l'étude, l'espérance va au-delà de l'espoir. Ça, Bernanos t'avait déjà dit d'ailleurs, mais enfin, espoir c'est pour Malraux, Bernanos c'est l'espérance, voilà. Et donc, il faut que je termine autrement, et ça je me suis pris, disons, d'une sorte de passion théologique. Hein. C'est pour ça qu'il y a donc Coda et Postlude, hein, toujours, avec, toujours, là, vous pourrez vous en effrayer, les références philosophiques, parce que je pense intimement que pour comprendre le texte spirituel, le texte mystique, la théologie ne nous sert pas à grand-chose. En revanche, la philosophie est décisive. Parce que, comme la littérature d'ailleurs, elle nous donne chacune à leur manière accès, peut-être aux abîmes, ou au moins en profondeur, du cœur humain. Voilà. Donc, c'est pour ça que vos lectures aux uns et aux autres, j'ai peut-être pas répondu du tout à votre... Sauf qu'il y a un deuxième tour. Alors écoutez, alors attendez, 15 ans pour le premier. Oui, parfait. Donc le deuxième. Voilà. Donc, c'est... Mais comprenez bien, c'est un... Bien sûr, c'est un livre, mais c'est un chemin. C'est un cheminement spirituel, c'est le mien en même temps. Alors, je ne vous demande pas de jouer au paparazzi spirituel, à essayer de voir, de nicher sous les lignes. Mais enfin, ceux qui me connaissent un tout petit peu auront deviné. Hein. D'ailleurs, certains m'ont dit, encore un de mes amis prêtres là, qui est dans le nord de la France, qui m'ont dit, c'est extraordinaire, quand je te lis, je t'entends. Parce que tu écris comme tu parles. Bon, c'est... Alors, donc, vous voyez que au niveau de la prédication, ça rend les choses un peu difficiles, quelquefois. Voilà. Je ne sais pas. On donne la parole à nos... Oui.
On a 5 minutes pour des questions.
Ben oui, ni Simone Veil, j'espère. Ni Marie-Noël. Alors bon, laissons la liberté de penser au carme suédois. Mais voyez-vous, je pense une chose. Saint Jean de la Croix est un homme d'Espagne, c'est un homme du Sud. Et quand je lis les nuits de Saint Jean de la Croix, j'entends dans ma cervelle arrière les nuits dans les jardins d'Espagne de De Falla. Bon, voilà. Donc un homme du Nord ne comprend pas cette nuit-là. Hein, c'est une nuit brumeuse, je vais dire opaque. Hein. Bon, alors peut-être que votre carme suédois avait des soucis démocratiques, en disant n'importe qui peut s'aventurer dans Saint-Jean de la Croix. Voilà. Mais j'avoue que pour ma part, c'est pas du tout ce carme suédois que vous signalez qui m'a, permis d'entrer. C'est un philosophe qu'on connaît ici bien dans cette maison, c'est Alain Cugnot. Il a écrit un petit livre sur Jean de la Croix, lumineux. Je veux dire que là, c'était le... Je dis pas que c'était le guide bleu, mais enfin, pour Saint-Jean de la Croix, mais enfin, je veux dire... On y entrait de manière assez raidée. Hein, c'est exact. Alors, vous dites, un mot de bienveillance, terminons-en avec ces catégories, si vous voulez, Eros, Thanatos et tout, Eros, c'est Agapé, plutôt, Agapé, et puis Philia, tant qu'on y est, l'amour d'amitié, et puis l'amour de bienveillance. Moi, c'est ce que je retiens, si vous voulez, de toutes ces femmes, c'est que ce qu'elles vivent, c'est pas pour elles, c'est toujours pour autrui, pour aider autrui, pour venir, en aide à la détresse de ceux qui, eux, comme l'a dit très bien l'abbé Munier, qui demande à Marie-Noël de publier Notes intimes, je veux dire, aux âmes troublées, leurs sœurs. Hein. Et donc, elle se décide à violer un peu le secret de son intimité spirituelle et mystique en publiant ce florilège de son sans doute propre journal spirituel. Alors ça, je refuserais qu'on les prive. Alors évidemment, pour Mère Teresa, c'est assez clair, mais même les, toutes les autres. Edith Stein, oui, regardez à Westerbork. Regardez à Westerbork, sans parler de tout ce qu'elle aura pu faire comme enseignante quand elle était à Spire. Edith Zoom, idem, idem. Enfin, si vous voulez, là, n'accablons pas Simone Veil, parce que la pauvre, je veux dire, elle met son pied dans un chaudron d'huile bouillante quand elle voulait se trouver sur le front de la guerre d'Espagne. Je veux dire, elle est d'une maladresse et d'une myopie, je veux dire, insurpassable. Donc là, mais elle essaie toujours, c'est pour autrui, relisez tout simplement son projet d'infirmière de première ligne, qui est suicidaire, hein, entre nous soit dit. Mais peut-être que aujourd'hui, les mouvements humanitaires, disons, les ONG, réalisent ce qu'elle avait pensé quand même un peu abstraitement. Voilà. Hein, bon. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci de votre présence et de votre chaleureuse participation.